Je vous invite à ouvrir vos Bibles ce soir dans le psaume 133. Le psaume 133, psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Prions. Notre Dieu et Père, nous voulons te remercier pour l'unité que nous constatons dans ta personne. Pour toujours unis, Père, Fils, Esprit Saint. Pour ton génie, pour ta gloire, pour ton amour débordant, qui a voulu, dans ta grâce et dans ta miséricorde, et pour ta gloire, faire l'homme, faire les anges, peupler l'univers avec des êtres sur lesquels tu pouvais répandre ton amour et avec lesquels tu pouvais jouir de l'unité, de la communion. Nous sommes appelés sans cesse à cette communion avec toi, notre Dieu. Nous sommes appelés par ta parole à être unis, unis à toi en premier lieu. Et parmi ceux qui te sont unis, unis les uns aux autres. Et combien il est vrai que cette unité est le signe de notre sacerdoce, comme l'huile qui est venue sur la tête du souverain sacrificateur. Cette unité est également une source de fertilité, comme la rosée qui descend sur l'Hermon. Cette unité est la condition pour que tu envoies aussi ta bénédiction éternelle. Alors, elle doit constituer l'objet de nos recherches et de nos efforts. Eh bien, nous voulons te prier ce soir que par ton esprit, tu nous aides à comprendre tout ce que tu veux nous communiquer par rapport aux menaces qui pèsent sur l'unité et comment nous pouvons la promouvoir de tous nos cœurs. Pour notre bien, évidemment, mais aussi et surtout, pour ta gloire et pour l'avancement de ta cause dans le monde. Par Jésus-Christ. Amen. Oui, quand on pense à l'unité, quand on pense à ce mot, à ce concept, on pense presque immédiatement au psaume 133. Il y a même de magnifiques chants. « Oh, qu'il est bon, agréable !» Vous connaissez, pour les frères de demeurer ensemble, pour les frères d'être unis. Et vient aussi tout de suite à notre esprit ce cantique « Béni soit le lien qui nous unit en Christ ». Et quand on pense à l'unité, il y a comme une chaleur qui envahit notre âme, vous ne trouvez pas ? Oh, que c'était bien ! J'ai vu des frères que je n'ai pas vus depuis longtemps. Oh, ça m'a fait un bien. C'était mieux qu'une cure thermale. C'était extraordinaire. Et cet amour que nous avons, et là on voit la preuve que nous faisons partie de la famille de Dieu. Mais ce court psaume, le psaume 133, nous rappelle les moments glorieux de l'histoire d'Israël. Des moments trop rares d'ailleurs. Quand on lit l'ensemble de l'histoire d'Israël, on se rend compte que ce peuple avait passablement de problèmes. Et quand dans nos églises et dans nos vies, dans nos couples, nous avons des problèmes, on peut s'identifier à Israël, on trouvera toujours les passages qui parlent du genre de problème qu'ils avaient et qu'on peut transplanter et qu'on peut prendre pour nous. Mais à quelques moments dans l'histoire d'Israël, on trouve le roi, clé de toute la situation, qui lui-même marche avec Dieu. On trouve derrière lui les sacrificateurs, fidèles, obéissants, organisés, zélés. On trouve l'enseignement de la loi. Et on trouve derrière tout ça un peuple sincère. Et qu'est-ce que ça fait plaisir à voir? Il n'y a peut-être pas de tableau plus magnifique dans tout l'Ancien Testament que ce spectacle de Salomon à genoux devant le nouveau temple étincelant de beauté qu'il consacre à l'Éternel avec tout le peuple, les trompettes, les sacrificateurs, la chorale qui chante la gloire de Dieu. Et comme point d'orgue à ce spectacle, vous avez la gloire de Dieu qui descend comme une nuée qui pénètre dans le temple. Je pense que Salomon ne s'attendait même pas à une telle réponse de la part de Dieu. Mais tout le peuple était témoin oculaire que l'Éternel s'était approprié la nouvelle demeure qui avait été édifiée pour lui. Magnifique Dieu qui demeure au milieu de son peuple, un peuple uni. Mais ce n'était pas tous les jours comme ça dans l'histoire d'Israël, loin s'en faut. Hélas, ce n'est pas non plus toujours le cas dans nos églises. Qui a été pasteur ou membre actif d'une église se souvient avec émotion des moments d'une grande unité régnée où des gens venaient poussés par le Seigneur de l'extérieur et voyant l'amour qui régnait entre nous, on sentait que l'église, il fallait bientôt pousser les murs puisque la bénédiction de Dieu était là et les gens s'accueillaient à coups de sourire et de bisous et de poignées de main et ravis de se voir. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les microbes de la division sont tout autour de nous. Et l'infection nous guette à chaque instant. Parfois, dans une église, vous avez une équipe médicale, spirituelle. Cette équipe médicale arrive, l'équipe d'urgence, et ils arrivent à circoncire le problème et à le résoudre avant qu'il ne se répande de trop. Mais trop souvent, c'est la septicémie dans l'église, infection généralisée. On peut même craindre pour la vie du corps malade. Quelquefois, à l'issue d'une division, d'une séparation, d'un problème de ce genre, on se demande si le corps de l'église va mourir. Quelquefois, le pasteur ou quelqu'un de l'église pose la clé sous le paillasson et c'est la fin de l'église. Nous avons des amis à Ussel et ils sont allés en Bretagne. Ils sont arrivés dans une église, c'était hélas le dernier dimanche de cette église-là. Le dernier culte, il y avait 3 nouvelles personnes. Et ils sont montés plusieurs fois pour s'occuper de ces 3 personnes, dont 2 se sont converties, les amener dans une autre église pas trop loin, et ils ont assisté à leur baptême, mais il a fallu qu'ils prennent la chose, l'église mourait devant eux. C'est parfois le cas pour l'église locale. Parfois l'église locale ne meurt pas, mais elle met des années à se rétablir. C'est pareil dans des familles chrétiennes et dans les regroupements et les communions d'église. Des semences, des microbes de la division. Et comme une maladie, la division frappe partout à la fois. J'ai vécu bien longtemps dans plusieurs églises, vous aussi, la plupart d'entre vous, je vous reconnais depuis longtemps qu'on se connaît, donc vous n'êtes pas les novices. Et vous avez connu aussi des années de paix, d'unité, de croissance. Et puis tout à coup, et on ne sait pas comment, vient souvent des tensions, des divisions, parfois au sein de plusieurs familles à la fois, dans l'église, parmi les enfants de Dieu. La maladie fait rage, beaucoup sont blessés. Hélas, certains arrêtent toute pratique chrétienne. Et vous en connaissez, je pense que vous en connaissez tous, quelques-uns, peut-être plusieurs. Vous les rencontrez dans la rue. Ah, ça fait plaisir de te voir. Ah oui, moi aussi. Alors, vous ne venez pas. Écoutez, hein, vous vous souvenez de ce qui s'est passé il y a 5 ans? C'est pas demain que vous allez vous voir dans une église de nouveau, hein? Hein? Pour vivre ce genre de choses, non merci, je suis mieux là où je suis. J'ai ma Bible, j'ai mon calendrier La Bonne Semence, j'ai mon petit culte personnel, mais les églises, merci, j'ai déjà donné. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire? Oh, je vous promets que ça ne se reproduira plus jamais. On ne peut pas leur dire ça. Hélas. D'autres restent, et j'en connais, vous en connaissez, on passe par les tempêtes les plus terribles et alors on est là. C'est un mauvais moment, pas rien, encore une vague. Et puis tout à coup, il semblerait que tout se calme et puis on secoue la tête un peu, on dit, ah, il y a quelques-uns qui sont encore là. Bon, mais on va essayer de reconstruire. Fatigués, blessés, mais ceux qui restent décident ensemble de continuer à vivre leur foi, quoi qu'il arrive. Alors les blessures se referment lentement. Chacun décide finalement de pardonner à tout le monde. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du tort. Je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé. Ça m'est égal qu'ils me demandent du pardon, moi je leur pardonne. Puisque je ne veux pas vivre dans l'amertume. Peu à peu, des chrétiens relèvent la tête et le Seigneur les reprend et les utilise et son œuvre continue malgré tout à avancer. Quelquefois, et dans les meilleurs des cas, de profondes et vraies réconciliations ont lieu. Et ça, c'est des moments absolument merveilleux dans la vie de toute Église, dans la vie de tout chrétien. Alors, la parole de Dieu est le Dieu de la parole. Nous invite et nous appelle à vivre dans l'unité et dans l'amour. Et quand nous nous convertissons et quand nous nous joignons à une église, nous avons toutes les intentions du monde de vivre dans l'unité et de vivre dans l'amour. Parfois, on est blessé et on oublie cet engagement. Oui, j'ai décidé de vivre dans l'unité et dans l'amour, mais jusqu'à un certain point. Écoutez, ne me cherchez pas, parce que si vous me cherchez, vous allez me trouver. Et ça va mal se passer pour vous. Donc, je peux vous aimer, mais à certaines conditions. Les conditions ne sont pas toujours réunies. Alors, on décide finalement de laisser la chair prendre le dessus. Et puis, on va se battre, on va faire du mal et on va nous faire du mal. Une partie de tous ces problèmes, une partie de ces microbes, nous les portons en nous-mêmes. Il faut quand même être assez honnête pour dire, j'ai une sale nature pécheresse. Et peut-être vous pensez, oui, je pense que toi, tu as une sale nature pécheresse. Et c'est vrai, je viens de l'avouer. Mais peut-être que vous aussi, vous avez une sale nature pécheresse. Je ne le dis pas parce que je vous connais personnellement et que je connais des choses que vous n'aimeriez pas que je connaisse, non. Je le dis parce que la Bible le dit. Cette nature pécheresse que nous avons héritée de nos parents ne s'améliore jamais. Dieu dit, c'est sans espoir. Je vous transplante une nouvelle nature. Et nous sommes des gens très bizarres, nous avons en nous, côte à côte, deux natures. La nature du Christ et la vieille nature d'Adam. Et Dieu nous appelle à faire mourir les actions de la vieille nature et à faire vivre la nouvelle nature. Mais quand nous ne nourrissons pas cette nouvelle nature, la vieille nature prend ses droits, prend le dessus, et vous connaissez les conséquences dans votre propre vie, et parfois dans la communauté. Donc, il y a deux causes essentielles. Il y a notre mauvaise nature, qui n'est jamais très loin, et puis il y a le diable. Amen. Nous ne pouvons pas toujours blâmer le diable. Quelquefois, je pense que le diable, il a d'autres gens, il peut-être est en train de gêner d'autres gens, mais il est à 1000 km de votre église, et quand même ça ne va pas parce que vous et moi, on ne va pas. L'auteur, celui qui a imaginé la division, c'est le diable. La première division à avoir jamais eu lieu s'est passée dans le ciel. La cause de la division, c'était un fameux Lucifer, le fils de l'aurore, le chef-d'œuvre de l'Éternel. Il n'avait peut-être pas fait un autre ange aussi majestueux, aussi beau que celui-là. Dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, on a les conditions dans lesquelles il a été créé. La Bible dit que les tambourins et les flûtes étaient préparés pour le jour où tu fus créé. Apparemment, Dieu a décidé de créer cet ange magnifique Lucifer avec un concert. Vous imaginez ça? Ce magnifique ange parfait, merveilleux, glorieux, qui va avoir une position tout à fait spéciale. Il va être un chérubin protecteur. Il va être sans cesse dans la présence immédiate de l'Éternel. Il va contempler la gloire, la majesté de son Créateur. Il est en première loge. Je veux dire, les autres anges auraient pu le jalouser. Mais lui n'aurait pu jalouser aucun ange, car il était parmi les tout premiers. Et il a regardé, et comme c'était, tous les anges sont extraordinairement intelligents, il a compris, il a vu tous les anges, lui aussi, adorer le Créateur. Il a regardé sa beauté, il a regardé la beauté des autres anges. Il pouvait quand même tout voir. Il a vu la place qui lui était attribuée. Ce n'était pas un robot, c'était un être capable de réfléchir, capable d'émotion. Et il a vu que le Créateur était le seul qui recevait l'adoration. Et que tous les autres êtres sur place adoraient le Créateur. Et un jour, il s'est dit, et c'est là où le péché a commencé, « Moi, j'aimerais avoir ça. J'aimerais qu'on m'adore. C'est ça qu'il me faut. Je veux être adoré comme le Créateur. » Il savait qu'il était un ange créé. Il était parfaitement conscient qu'il ne méritait pas l'adoration. Mais quelque chose en lui, il a pris une décision d'ordre moral. Dans son âme et dans sa conscience, il a décidé de vouloir être semblable à celui qu'il a créé. Suprême blasphème. Et il a dit, « Je monterai aux extrémités du septentrion, je serai comme le Très-Haut. » Ce n'était pas gênant pour lui de partager le paradis avec le Très-Haut. Il voulait simplement être l'autre être qu'on adorerait. On adore l'Éternel et on adore son bel ange Lucifer. Ça lui aurait suffi, être comme Dieu. Mais mes amis, génétiquement, ce n'était pas possible. Il n'est même pas dans la même classe d'être que Dieu. Dieu est dans une classe tout à fait à part. Il est éternel, il est tout puissant. Il a toute intelligence, son pouvoir n'a pas de limite. Il remplit toutes choses. Lucifer était tout simplement une magnifique création de Dieu. Et c'est de là que la division a commencé. Et même parmi la compagnie angélique, les microbes de la division se sont répandus comme une traînée de poudre. Nous ne savons pas combien de temps il a fallu à ces êtres intelligents et informés de prendre leur décision, mais un tiers d'entre eux, semble-t-il, ont pris fait et cause pour l'usurpateur, pour Lucifer, et ont dit, nous, on va suivre Lucifer, c'est notre chef de file. Nous partageons ses ambitions, nous partageons son programme, nous l'admirons, nous voulons le suivre en quelques minutes. Il avait, ou quelques temps, il avait fait une foule de disciples. Et le Dieu trois fois saint a dû les éloigner de sa présence à tout jamais. Il est vrai, comme Job le rappelle, le livre de Job, que Satan est le prince de la puissance de l'air, il pouvait voyager dans le lieu céleste, il vient à la rencontre de Dieu, ils ont des conversations, mais ils sont à un univers de séparation, de différence. Il y a une haine véritable dans le cœur de Satan pour son créateur. C'est difficile à imaginer. Il n'y a aucune raison, aucune cause à cette rébellion, à part simplement son désir d'être comme Dieu. Le péché n'a pas de cause normale. Le péché est une anormalité. C'est une tare que nous portons. Il n'est pas normal que nous péchions. Il n'est pas logique que nous péchions. Il n'est pas raisonnable que nous péchions. Pourtant, nous péchons. L'auteur de la division, c'est le diable. Alors, le diable, et nous le disons souvent, quel était le premier péché qui a jamais été commis? L'orgueil. Satan l'a inventé. Il a inventé. Satan connaît l'orgueil comme personne. J'ai un très cher ami qui m'a dit une phrase qui m'a marqué. Et j'aimerais qu'elle vous marque ce soir. Je pense que jamais vous n'allez oublier cette phrase. Quand Satan veut semer la division dans un groupe de croyants, il cherche un être, un homme ou une femme orgueilleux. Parce que quelqu'un qui est orgueilleux, Satan peut le manipuler comme une marionnette. Son orgueil rend possible à Satan de le diriger comme il l'entend. C'est de la pâte à modeler entre ses mains. Satan ne peut rien faire sur l'humilité. Il a beau essayer, il n'a pas de prise, c'est lisse. Mais quelqu'un d'orgueilleux, il a une poignée là qu'il peut saisir et l'envoyer dans toutes les directions et faire des ravages horribles. Et ça devrait nous parler solennellement. On pourrait se dire ce soir, et peut-être vous vous dites, mais moi j'aimerais bien être humble, mais je suis orgueilleux de nature. Et moi je suis orgueilleux de nature, je vous l'avoue. Un jour, mon père m'a dit une chose qui m'a blessé, mais qui m'a beaucoup aidé. Il a dit, tu pues d'orgueil. J'avais 15 ans. Tu pues d'orgueil. J'ai trouvé que c'était un peu cruel et peut-être pas très juste. Mais après quelques minutes de réflexion, j'ai dit, mais il ne m'a pas dit ça pour me faire plaisir, enfin plutôt pour me blesser. C'est qu'il le sent, il le voit, il le dit. Pendant des années, j'ai prié, Seigneur, rends-moi humble. Et je n'avais jamais l'impression que Dieu répondait à ma prière. Pourtant, je la trouvais bonne, cette prière. Mais j'ai finalement trouvé la réponse dans la Bible. Dieu dit, humiliez-toi, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et finalement, l'humilité est une décision que nous prenons. Je décide de m'humilier. Mais vous dites, comment est-ce qu'on peut s'humilier quand on est orgueilleux? Mais pour se comparer à Dieu. Quand on commence à voir Dieu, puis on se voit à côté, on est tout humble. C'est quand nous nous comparons aux autres que l'orgueil vient. Humiliez-vous. C'est un ordre. Ça m'a délivré. Alors, je ne peux pas vous dire que je suis humble aujourd'hui. Mais je peux vous dire que quelquefois et régulièrement, je m'humilie devant mon Dieu et je dis, Seigneur, tu es tellement grand, je suis tellement petit, montre-moi qui tu es. Vous vous souviendrez de cette phrase? Quand Satan veut semer la division dans un groupe de croyants, il choisit un homme orgueilleux. Que jamais il ne soit dit de nous que nous avons été cet homme ou cette femme orgueilleux, manipulé par Satan pour faire des ravages dans son corps. Il y a différentes causes à cette division, à cette unité qui est menacée. Une première cause, et on va regarder un peu en Corinthiens chapitre 1, c'est une loyauté mal orientée. En Corinthiens chapitre 1, une loyauté, c'est bien d'être loyaux, mais mal orienté. On lit dans les versets 10 à 12. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous en même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé. Vous voyez, il y avait les rapporteurs, hein? Heureusement qu'ils étaient là. Par les gens de Chloé, j'ai appris qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Il a carrément dit ce qui n'allait pas dans cette église. Ils avaient choisi des héros. Paul pour la profondeur de sa connaissance. Apollos pour sa grande éloquence. Céphas parce qu'il était le prédicateur de la Pentecôte, celui qui a reçu les clés du royaume. Et Christ, évidemment. Mais les gens qui disaient, moi je suis pour Christ, pas pour eux. Même quand il disait le bon langage, la bonne phrase, ce n'était pas dit d'une bonne manière. Une loyauté mal orientée. Souvenons-nous, frères et sœurs, Christ a tout fait pour nous. Verset 13 le rappelle. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Vous savez... Quand vous vouez une certaine admiration à quelqu'un, un pasteur, un serviteur de Dieu, et quelqu'un vous rapporte une anecdote qui est critique, vous montez sur vos grands chevaux, je ne permettrai pas que vous parliez de mon pasteur comme ça. Vous savez, c'est un homme merveilleux. Oui, mais il a des défauts. Ah, je peux entendre parler de ses défauts. C'est quelqu'un de formidable. C'est bien que vous pensiez ainsi, mais attention, est-ce que la loyauté est mal orientée? Vous pourrez dire, écoutez, c'est un homme comme vous et moi, c'est un pécheur comme vous et moi. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas l'admirer, ni travailler avec lui. Mais Christ seul est parfait. Quand les gens entrent dans nos églises, qu'est-ce qu'ils disent au début? Oh, vous êtes tellement merveilleux. Ceux qui sont dans l'église depuis longtemps se regardent les uns les autres. Oh non. On est tous sur des piédestals, je demande qui va tomber le premier. Au bout d'un ou deux ans, il dit, bon, écoutez, vous n'êtes pas comme ce que je croyais, mais j'ai trouvé Jésus-Christ parmi vous, alors je reste. Tout le monde fait, ouh! Non, mais c'est vrai. Que les gens viennent parce qu'ils ont trouvé Christ, et pas parce que nous sommes des gens merveilleux. On s'identifie à Christ. Le meilleur des hommes, regardez chapitre 3, verset 5, où il continue sur ce même sujet. Quand l'un dit, moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos, verset 4, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Il dit, quand vous parlez, je suis de Paul ou je suis d'Apollos, vous parlez vraiment comme des hommes. Comme des hommes qui admirent d'autres hommes. C'est stérile. C'est stérile. Jamais on ne se met devant un poteau indicateur pour dire « Oh, quel poteau indicateur !» Ça dit « Le Louvre, 300 mètres !» Ce poteau, je le prends. Vous avez vu au Louvre? Non, j'ai vu le poteau. Regardez-le. Vos amis vont dire « Vous êtes fous !» Le poteau est juste pour indiquer la merveille à côté. Il en est ainsi des serviteurs de Dieu. C'est juste des gens qui disent « Regardez Christ ». Et plus ils pointent vers Christ, plus ils sont de bons poteaux indicateurs. Le meilleur des hommes n'est qu'un serviteur de Christ. La vraie valeur, c'est Christ et son corps. Regardez versets 16 et 17 du même chapitre 3. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Où est la vraie valeur? La vraie valeur de l'Église est quel est le temple du Seigneur? La vraie valeur de l'Église, ce n'est pas les talents de ceux qui la composent, c'est le propriétaire qui lui donne sa valeur. C'est parce que Christ tabernacle en nous, son Église, c'est ce qui nous donne une vraie valeur. C'est ça le vrai trésor. Et quelquefois, on peut trouver bien des défauts dans certaines églises. dans certains instituts bibliques, je dirais même dans certains camps chrétiens. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Et une fois qu'on a critiqué copieusement tout ce qui ne va pas dans certaines organisations, finissons en disant, mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est le corps du Christ. Alors, les hommes sont ce qu'ils sont, mais ces gens-là, je vais passer l'éternité avec eux parce qu'ils sont sauvés par le sang de l'agneau. Une loyauté mal orientée. Une deuxième cause de division qui menace l'unité, j'appellerai ça une critique assassine. Une critique assassine. En Corinthiens chapitre 2, verset 3. Et on va voir, cette cause de division concerne surtout les critiques qu'on va formuler à l'égard des serviteurs de Dieu. Comme on dit dans le monde, si vous recevez des coups de pied dans derrière, c'est que vous êtes devant. Et beaucoup de pasteurs connaissent cette sensation. Quand on veut tirer sur une armée, on vise l'officier. Si on peut le tuer lui, toutes les troupes seront désorientées. Et donc, Satan vise particulièrement les serviteurs de Dieu, ceux qui exercent une responsabilité dans une église. Ce n'est pas qu'ils aient plus de valeur que les autres, seulement quand ils tombent, les dégâts sont plus importants. Pourquoi tuer 100 personnes quand on peut en tuer une et disperser les 100? C'est une meilleure stratégie. Et ça n'a pas échappé à Satan, bien sûr. Mais l'une des raisons pour lesquelles on va critiquer le serviteur de Dieu, comme on l'a fait avec l'apôtre Paul, d'abord on voit dans le verset 3 du chapitre 2, il dit « J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Savez-vous qu'il y a des croyants sincères qui lisent ça et qui disent « Ben voilà, je le savais, cet apôtre Paul... » Oui, il se donne pour un grand apôtre, mais regarde, il est passé par un moment de faiblesse. Hein? Alors, ça prouve quoi? Alors, ça prouve que, il n'était pas près de Dieu. Parce que s'il avait été près de Dieu, il aurait été dans la victoire. Paul était faible quand il est arrivé chez les Corinthiens. Mais oui, mais on le lui a reproché. Regardez. En 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 1. Alors, il emploie de l'ironie dans tous ces passages ici, maintenant, 10 et 11. Mais moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, il est cité, ses ennemis. Mais plein de hardiesse quand à votre égard, quand je suis éloigné. Parce que c'est ce que les gens disent à son sujet. Oui, bon, Paul, c'est un lâche. Quand il vient à l'église, il est tout doux. Il est tout faible. Mais quand il s'en va, il n'est pas là, il écrit des lettres qui sont fortes. Il a un peu un double... Il n'ose pas dire en face... En face, nous, ce qu'il a, il n'ose pas cracher le paquet. Il attend d'être loin pour écrire des lettres. Attention, oh, ça déménage. Mais quand il a, il est tout doux. Oui, c'est un faible. Et on le dit pour le discréditer. Pour le discréditer. Regardez verset 7. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est du Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est du Christ, nous aussi, nous sommes du Christ. Et quand je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Ah, ce pasteur ne fait pas le poids. Il ne tient pas le coup celui-là, il est faible. Il est un peu fragile. Vous savez qui avait l'air faible? C'était Jésus. Et oui, sur la croix, il avait l'air faible. Et les détracteurs étaient là, eux, bien drapés dans leurs habits militaires, et puis les pharisiens dans leurs robes religieuses, en train de voir un homme qui donnait sa vie cloué sur une croix, moitié mort déjà parce qu'on l'avait tellement malmené. Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver. Regardez le faible que c'est. Où sont ces miracles maintenant? Ils avaient beau jeu joué, et se moquer de Jésus qui était tellement faible. Pourquoi les serviteurs de Dieu paraissent-ils souvent si faibles? C'est gênant à la fin. Un vrai serviteur de Dieu doit vivre dans la victoire. Un serviteur ne peut pas sauver une église ou l'édifier dans l'humilité s'il paraît fort. La plupart des gens dans les églises sont faibles. Vous êtes peut-être faible, vous paraissez fort et vous dites que vous êtes fort, mais vous savez, Dieu peut envoyer dans votre vie et dans ma vie des circonstances où on va sentir toute notre faiblesse. Et ça peut arriver demain. Et quand nous sommes dans cet état-là, ce n'est pas d'un pasteur fort qui dit « Oh, mais là, tu n'as qu'à te relever, qu'est-ce qui se passe ?»« Oui, mais j'ai perdu mon père. »« C'est pas grave, il est au ciel, pourquoi tu pleures? Allez !» J'ai pas été accepté à l'université, et bon, il y en a d'autres, écoute. Je passe vraiment de dépression. Ah, mais ça, c'est pas spirituel. Allez. C'est pas un patron, un pasteur, c'est un berger. Et quand une brebis est blessée dans le champ, le berger dit, allez, lève-toi, là, à mon coup de pied. C'est pas un berger. Cette apparente faiblesse fait que les gens peuvent s'approcher de lui facilement parce qu'il sent, il me comprend. Ça lui donne l'opportunité d'aider les faibles et c'est son rôle. Mais pour quelqu'un de fort, ça lui sert de prétexte pour le discréditer et pour lui faire perdre sa place. La faiblesse même du serviteur peut être une cause. Le dévouement du serviteur. Vous dites, mais ce n'est pas possible. Le dévouement d'un serviteur ne peut pas être une cause de division dans une église. Un serviteur qui est dévoué, ça ne peut que susciter l'admiration. Jugez plutôt pour vous-même. En Corinthiens chapitre 9. Cette église, vous le savez, avait de très très gros problèmes. Et Paul doit dire, mais moi j'ai des droits comme les autres. Et tout le chapitre 9, il dit, vous savez, en tant qu'apôtre, en tant que fondateur d'église, en tant que serviteur de Dieu, j'ai le droit d'être soutenu financièrement par les enfants de Dieu, et surtout par les enfants de Dieu dans les églises que j'ai le privilège de fonder. Et il cite plusieurs choses de l'Ancien Testament. Il dit même dans Moïse, dans les 5 premiers livres, quand un bœuf poussait et moulait le grain, il avait droit de manger ce qu'il voulait du grain qu'il moulait. Il pouvait le faire. Ce n'était pas un problème. Dieu l'avait dit. Est-ce que Dieu a pensé uniquement au bœuf? Tout travail mérite salaire, on le dit bien en français. Et Paul dit, je donne mon temps, je fais un travail pour Jésus-Christ et j'ai le droit de recevoir une rémunération pour le travail que je fais pour Jésus-Christ. Et cette rémunération doit venir de ceux auprès desquels j'exerce ce ministère. Et il a dit, Jésus lui-même a dit, a ordonné que ceux qui prêchent l'évangile vivent de l'évangile. Bon, l'apôtre Paul, il a dit, j'ai reçu du soutien de pratiquement toutes les églises que j'ai fondées à part vous, Corinthe, et de chez vous, je n'accepte aucune rémunération. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il acceptait une rémunération, on le lui reprocherait un jour. Et ça nous fait poser la question, mais quel genre d'église c'était? Quel genre d'église c'était? Paul a été suivi à Corinthe par des faux ouvriers, par des apôtres par excellence. Il les appelait 2 Corinthiens chapitre 11. En 2 Corinthiens chapitre 11, il parle de ces hommes, mais pas dans des termes élogieux. Regardez ce qu'il dit, verset 5. Il dit, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Verset 9, il dit, les frères venus dans la Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Mais regardez les versets 12 et 20. J'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Et verset 20, si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Une drôle d'église. Est-ce qu'ils étaient masochistes ou quoi? Mais frappez-moi encore. Mais c'était quoi? Cette église était, on le sait, remplie d'orgueil. Alors, elles avaient une admiration pour les gens bien. Des gens forts. Des gens qui étaient sûrs d'eux. Ils n'avaient pas beaucoup d'admiration pour les gens qui étaient faibles et qui paraissaient un peu écrasés, comme l'apôtre Paul, malade. Un peu difficile à regarder, son visage était défiguré par la maladie. Ça fait mauvais genre dans une belle église comme nous. Hein. Mais ces apôtres qui sont arrivés avec des lettres de recommandation, de fausses lettres, de l'église de Jérusalem. Bon, écoutez, on est venu pour vous faire des séminaires sur la doctrine, on va vous enseigner des choses. Mais l'apôtre Paul a fondé une autre église. Oui, ça c'est le béaba, mais nous on vient vous apporter un vrai complément de la vraie nourriture spirituelle. Bon, alors où c'est qu'on loge? Qui prépare nos repas? On exige quand même des chambres bien, quand même, on voit un peu qui nous sommes, tout de même. Ouais. On est habillé, on a besoin des honoraires également. J'espère que vous allez comprendre à quel point nous sommes importants et indispensables à votre église. On a quand même fait un voyage, on n'a pas épargné notre peine pour arriver jusqu'à vous. Donc, on s'attend quand même à un certain accueil. Et quand ce n'était pas tout à fait satisfaisant, c'est quoi ce repas? Mais on, ben, est-ce que vous nous voyez? C'est quoi cette nourriture? On veut autre chose quand même. Vous êtes capable de faire mieux que ça. Mais c'est comme ça que ça se passait, dit verset 20. On vous a servi, on vous frappe, on... Vous aimez ça? Ah, oh, mais ça, c'est des gens formidables. C'est vrai, ils ne mangent pas n'importe quoi, mais ce sont des gens très importants. Puis la chambre, il faut la changer, il faut qu'elle soit meilleure, parce que ces gens-là, ils ont un double doctorat de Jérusalem. Imaginez la faveur qu'ils nous font de venir jusqu'ici. Oh, ils demandent de l'argent, mais c'est normal, ils le méritent. Regardez comme ils se présentent bien. Et Paul qui a fondé le lieu, oh, ben, tout à l'envers. Celui qui les avait amenés au salut était compté comme moins que rien. Et ceux qui venaient les exploiter, ben, on les admirait. Ils marchaient sur la tête. Un ministère qui est reçu gratuitement paraît avoir moins de valeur comme ministère auquel on participe financièrement. Un de mes amis, le même qui m'a parlé de cet homme orgueilleux, utilisé par Satan, il a eu une expérience pastorale qui a duré 2 ans. Dimanche matin, dimanche soir et mercredi soir, il donnait des études bibliques et des messages et il priait des heures en les préparant. Il s'était donné, il travaillait à plein temps, il avait 6 enfants, il avait un grand jardin, il appréciait sur son temps de sommeil. Au bout de 2 ans de ce travail-là, il était tellement dedans et tellement désireux que ces gens l'agrandissent. Il faisait 60 kilomètres aller simple pour aller dans cette église. Et il maigrissait à vue d'œil et sa femme a dit un jour, écoute, il faut que tu arrêtes ce ministère, ça te coûte trop, tu es trop dedans, tu vas mourir, je sens que ta santé s'en va. Il dit, je suis prêt à mourir pour Christ. Elle dit, oui, d'accord, mais il faut être sûr que c'est pour Christ. Quelques jours après, le Seigneur le réveille en pleine nuit et lui dit, tu vas démissionner de ce travail pastoral. Dimanche suivant, il a démissionné, ne sachant pas pourquoi. Quelques jours plus tard, un des frères de l'église lui téléphone. Il dit, tu as démissionné, mais quand est-ce que tu as pris la décision? Eh bien, tel soir, il a donné la date, à telle heure, tout à coup, j'étais convaincu qu'il fallait donner ma démission. C'est comme extraordinaire. Ce soir-là, j'ai réuni les hommes de l'église. Je dis, écoutez, ça fait 2 ans que notre frère vient. On n'a pas participé une seule fois à ses frais d'essence. Et on voit qu'il se donne vraiment pour nous. Il fait ses kilomètres, il donne du temps, il prie, il nous donne la parole de Dieu. Ses études sont riches et tout le monde en conviendra. Je pense qu'il faudrait le soutenir un peu. Les autres frères, ah mais pas question! S'il est appelé par Dieu, il faut qu'il le fasse sans rien attendre en retour. C'est drôle, hein? Il a dit, eh ben, il a dit, c'était la fin de mon ministère pastoral. Mais qui est-ce qui lui a dit de t'arrêter? Le souverain berger. Son enseignement était méprisé. Pourquoi continuer? C'est terrible. Le dévouement du serviteur peut parfois, si l'Église ne le voit pas, être même un facteur de division. Et vous avez, et plus on en voit plein, des pasteurs, des responsables d'Église qui, au bout de 20 ans, 25 ans, sont jetés et ils disent, mais j'ai tout fait. Ben oui. Et ça montre la maladie spirituelle dont nous pouvons être atteints. Prendre des choses que Dieu nous donne comme des choses dues, sans la moindre reconnaissance pour l'œuvre de Dieu. Il y a une troisième raison à ces semences de division dans l'Église, le péché dans l'Église. Et on regardera en Corinthiens chapitre 10, parce qu'Israël et nous, on a pas mal de ressemblances. L'apôtre Paul rappelle de l'histoire d'Israël 4 péchés d'attitude dans l'Église de Corinthe. Et franchement, quand vous lisez Exode et Nombre, à mesure que vous lisez ces livres, vous êtes, je ne crois pas mes yeux. C'est pas possible ce qui se passe ici. Pourquoi? Vous avez un paradoxe. Vous avez un Dieu qui n'a jamais été plus visible que dans Exode et dans Nombre. Tous les matins, on le voit, c'est une colonne de fumée qui suit. Toutes les nuits, il est là dans une colonne de feu. Tous les jours, on voit Moïse qui part à la tente d'assignation, qui entre et parle avec Dieu et il sort. Ainsi parle l'Éternel. Dieu lui parlait pratiquement tous les jours. Dieu était là. La manne était là tous les matins. Ils avaient soif. Bam, le rocher donnait de l'eau. Dieu était partout. Aucun homme d'Israël ne pouvait dire qu'il ne connaissait pas l'Éternel. On le voit tous les jours, sous une forme ou sous une autre. Et en même temps, on voit ce peuple commettre des pires péchés. Et critiquer Moïse, comme si Dieu n'existait pas. On se dit, mais ils sont aveugles ou quoi? Est-ce qu'ils ne pensent pas que la colonne de nuée qui est au-dessus d'eux n'entend pas et ne voit pas ce qu'ils font? C'est l'Éternel. Il savait que c'était l'Éternel qui parlait à Moïse. Il savait que Moïse n'inventait pas les trucs qu'il disait. Il savait que l'Éternel parlait à Moïse. Et puis, qu'est-ce qu'ils disent? Moïse, pourquoi tu crois que tu es le seul que... C'est pas normal. C'est pas normal. Mes amis, nous ne voyons pas Dieu comme eux le voyaient. Mais Dieu est parmi nous et nous le savons tous. Nous en sommes tous convaincus. Et quelquefois, on se dit, mais j'ai l'impression que pour moi en ce moment ou pour nous en ce moment, Dieu n'existe pas. La manière dont on se comporte. Quel était leur premier péché? C'était l'insatisfaction. On le voit dans le verset 5. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Ils avaient de mauvais désirs. De mauvais désirs. Ils n'étaient pas contents de leur meneur, Moïse. Il fallait un autre. Enfin, pas lui. Ils n'étaient pas contents de leur nourriture. Elle était trop sucrée. Ils n'étaient pas contents de leur milieu de vie. Il n'y avait pas d'arbres, c'était le désert. Ils n'étaient pas contents d'entendre la voix de l'Éternel à Sinaï. Ils parlaient beaucoup trop fort. Ils n'étaient pas contents de monter au pays promis, il y avait des géants. Ils n'étaient pas contents de ne pas y aller au pays promis, puisqu'il y avait le désert. Ils n'étaient pas contents d'avoir la famille d'Aaron comme sacrificateur. Ils n'étaient contents de rien. Vous savez que ça pèse dans une église, une personne qui vient à l'église, qui est perpétuellement insatisfaite, prête à critiquer tout ce qui se fait, et aussi tout ce qui ne se fait pas, et critiquer celui qui l'a fait, et critiquer celui qui aurait dû le faire, qui ne l'a pas fait, qui a été fait par quelqu'un d'autre. Et à force, ça fatigue et ça détruit une église. L'insatisfaction. La personne n'est jamais contente. Et vous savez, on en fait des trucs pour rendre ces gens heureux. Un tel, il est un peu choqué par la manière. Oh, on peut arranger ça. Et il y en a un autre qui dit qu'on devrait prendre le pain. Voilà. Et oui, on peut le faire. Et puis un autre, oui, on va arranger tout ça. Et puis la semaine suivante, ça recommence et on va arranger. Et finalement, on n'arrive jamais à les arranger. Maintenant, regardez bien une autre chose. Regardez d'où vient la critique. Regardez ce que font ces gens-là dans l'église. Quel est leur vrai travail? Et je vous soumets une théorie. C'est une théorie, mais je pense que vous allez la trouver assez juste. Les gens qui font très peu ou rien critiquent beaucoup. Les gens qui font beaucoup n'ont pas le temps de critiquer. Parce qu'ils sont dedans. Ils sont en équipe, ils travaillent. Et quand vous travaillez et que vous peinez avec d'autres à côté de vous, ça ne vous donne pas l'idée de les critiquer eux. Ils vous demandent, tout va tomber à l'eau. On fait le travail. Mais les gens qui sont là, qui ne font pas de travail, eux, ils critiquent. Qualité contrôle, ça s'appelle. Oui, mais bon. Ce sont toujours les personnes qui n'ont pas de vraies responsabilités. Et attention, ce sont des gens qui peuvent avoir des titres, mais peut-être pas forcément exercer de vraies responsabilités au sein de l'Église. Une troisième cause dans l'Église, péché dans l'Église, idolâtrie. Et ça, des gens qui n'ont rien forcément contre l'Église, ni contre les gens de l'Église, qui ne critiquent pas forcément l'Église, mais qui détruisent l'Église. Pourquoi? Parce qu'elles ont des idoles dans leur vie. Elles ont une passion pour quelque chose dans le monde. C'est mon travail. Je suis en carrière, je veux réussir, je passe des heures, peu importe, l'Église, la famille, c'est mon travail. L'argent, la course vers l'argent, le pouvoir, le plaisir. Et quand on a une passion pour les choses du monde, les choses de Dieu paraissent fades. Et quand vous avez suffisamment de monde, de gens dans l'Église qui sont passionnés par une idole, par autre chose que Jésus-Christ, ils sont fades. Et quand ils viennent, leurs partages sont sans saveur et l'Église descend et descend encore. Christ ne peut plus diriger. Vous savez pourquoi? Parce que ses brebis sont toutes distraites. Et elles sont imprévisibles. Je vous pose la question. Quand on parle de vous, est-ce que, et on met votre nom, est-ce que Chantal sera au culte dimanche matin? Qu'est-ce que vos amis répondent? Ah ben oui, à moins d'être malade au lit ou loin, elle sera là. Ou bien, ben je ne sais pas, parfois elle vient, parfois elle ne vient pas. D'ailleurs, elle nous a dit récemment, s'il n'y en a rien d'autre de mieux à faire, elle viendra. Donc peut-être elle vient. Et à la réunion de prière. Ah oui, là, franchement, ou bien, non, je ne crois pas. Je l'ai vu deux fois cette année, mais ce n'est pas dans ses habitudes. Bon, il peut y avoir des raisons valables, mais si c'est la distraction. Combien de chrétiens, je suis fatigué ce soir, vous savez. Mais qui, à la fin d'une journée, n'est pas fatigué? Dites-le-moi. C'est une fois par semaine, ou à limite deux, pour les églises super engagées. Mais ça vient souvent de l'idolâtrie. Il y a d'autres choses qui me parlent. Vous leur dites, il y a telle chose ce soir au cinéma, au théâtre ou à la télé ou ailleurs, ou des amis qui... Alors là, ils sont là. Ça, c'est certain, ils sont là et vous savez qu'ils vont être là. Mais une réunion de prière, ça, c'est pas très amusant. Hein? C'est vrai que c'est pas très amusant, une réunion de prière. Mais elle fait du bien. L'immoralité. L'immoralité terrible dans une église. L'immoralité a glissé dans l'église de Corinthe. C'est pas l'immoralité des visiteurs pour la première fois. Quelqu'un vient chez vous, Alors, oui, je suis homosexuel, mais je voulais voir. C'est pas ça qui va gêner l'Église. C'est pas ça qui va enlever la bénédiction de l'Église. Ah, vous êtes marié? Non, non, on vient en concubinage, mais on... ça, c'est pas un problème pour l'Église. Ça n'enlèvera pas la bénédiction de Dieu. C'est quand l'immoralité est parmi les gens de l'Église, parmi ceux qui se disent sauvés, comme c'était le cas à l'Église de Corinthe. Et à Corinthe, comme dans beaucoup de nos églises, on ne veut pas en parler. On voudrait que la situation s'arrange tout seul. Seigneur, montre-leur que ce n'est pas bien ce qu'ils font. Convainc-les par ton esprit. Nous, on pense qu'on ne peut rien dire. Ça les blesserait. Généralement, ça ne s'arrange pas tout seul. Vous savez ce que disent les gens? On vit en concubinage. Personne dans l'église n'a rien dit. Donc, c'est bon. C'est bien souvent une cause de division. S'il n'y a pas une discipline biblique, une discipline claire, qui est menée avec compassion, avec fermeté, quand il n'y a pas de communication et de prière, vous aurez dans l'église des colombes et des faucons. Les colombes vont dire, oh, vous savez, ils sont tellement mignons. C'est pas très grave, vous savez, ça se fait de plus en plus. Il y a plein d'églises évangéliques, je me suis renseigné ici, où voilà, on est quand même au 21e siècle, on ne peut pas revenir à l'apôtre Paul, le 1er siècle, ça fait un peu vieux. Et d'autres, non, c'est la parole de Dieu, on va les jeter. Les deux attitudes ne sont pas bonnes. Mais quand les gens, quand il n'y a pas de discipline de la part des responsables, quand les membres ne savent pas ce qui se passe dans ces conditions-là, quand les gens ont l'impression qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas traiter le problème, ça va faire une division dans l'église. Les gens vont dire, je pars cette église vers le péché. Les autres vont dire, mais nous on reste parce que ces gens-là qui sont partis, c'est des vrais, des légalistes. Alors on va jeter le mot légaliste dans l'arène. Ça n'a rien à voir avec le légalisme. Ça a tout à voir avec la pureté du corps du Christ. Et quand on ne fait pas la discipline, alors ça part dans tous les sens. Et c'est l'homme qui agit, ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Mais enfin, il vaut mieux errer du côté de la sainteté que du côté du péché. Paul a traité le problème à Corinthe, qui ne voulait pas le traiter, il ne voyait pas. Et ils l'ont traité collectivement, et quelque temps après, cet homme s'est repenti, il a été restauré dans l'Église. Et généralement, une bonne discipline biblique, ferme et pleine d'amour et de compassion, ramène le pécheur de sa voie. Et puis, dernière cause de péché dans l'Église, il dit, « Et ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns de verset 10. » Des murmures. Vous connaissez le son des murmures. Après le culte, il y en a deux ou trois qui se trouvent là-bas dans le coin, ils parlent entre eux. Dès que vous approchez, ils s'arrêtent. Hein? « Bonjour. » Dès que vous partez, « Qu'est-ce qu'ils disent ?» Et puis vous en avez d'autres. Et alors le pasteur ou les responsables, ils ont l'impression qu'ils ont un feu de forêt. Il y a un foyer par là, de feu, il y a un foyer par là. Il y a même des gens dans l'entrée des toilettes qui sont en train de parler entre eux. Et puis les gens derrière. Et puis vous dites, oh là là, j'ai l'impression d'être dans une forêt. Et tout le monde allume un feu en même temps. Qu'est-ce qui va arriver? Des murmures, des rumeurs, des bruits qui courent, des médisances. C'était déjà le lot des églises du 1er siècle. C'est un danger pour les personnes. Ça menace des gens surtout qui n'ont pas suffisamment d'occupation ou de responsabilité. Le désœuvrement est fatal. Il parle des veuves, les pauvres, des jeunes veuves. Il dit, ce serait mieux qu'elles se marient, qu'elles auraient un mari à s'occuper, qu'elles auront des enfants à s'occuper, qu'elles auront un ménage, qu'elles devront faire, et la cuisine. Mais si elles sont oisives, elles risquent d'aller de maison en maison et comporter des bruits, etc. Et ça va faire le foin dans l'église et ça va diviser le corps de Christ. Partant de presque de rien, juste une ambiance de murmure. Je veux terminer avec les doctrines ou les pratiques divergentes qui menacent notre unité. Dans une église et dans toute œuvre de Dieu, il y a deux composantes. Dans cette église et dans toute église, il y a deux composantes. Il y a d'abord le message, la doctrine que nous enseignons dans l'église. Cette confession de foi qu'on appelle la sainte doctrine. Et les croyants qu'ils deviennent membres, généralement, on leur donne la confession de foi. On l'étudie avec eux. Est-ce que vous croyez que c'est l'enseignement de la parole de Dieu? Oui, oui, oui. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas de doute, non. Ça me convient bien. Donc ça va, on est sur la même longueur d'onde. Question doctrinale. L'autre composante dont on ne tient pas toujours compte sont les pratiques courantes de l'Église, ou ses coutumes, ou sa philosophie de ministère. Chaque Église a sa propre ADN. Et chaque Église est différente. Vous n'avez qu'à entrer dans les Églises. Elles sont toutes vraiment différentes. Elles ont toutes sortes de manières de chanter, elles ont toutes sortes de manières de prêcher, elles ont toutes sortes de manières d'accueillir les visiteurs, de faire les classes bibliques, de faire leur assemblée générale. Chaque église a développé ses coutumes. Et de manière générale, les gens qui sont dans cette église depuis longtemps, ça leur convient. C'est un peu eux qui ont participé à mettre en place cette ADN, c'est la spécificité du corps local. Et il y a des gens qui pensent, mais pourvu qu'on croit la même chose, le restant n'a pas d'importance. Le restant a beaucoup d'importance. Alors parlons de cette fameuse séparation Paul et Barnabas. Ça, c'est un problème de philosophie de ministère. Pourquoi? Parce que Paul était appelé à fonder des églises, à être évangéliste. Dieu lui avait dit à sa conversion, « Tu témoigneras pour moi auprès des païens, auprès des rois et auprès du peuple d'Israël. » Tu vas fonder des églises, tu vas être mon témoin partout. Il n'a jamais fait une telle prédiction à Barnabas. Barnabas était le fils de la consolation. C'était un homme qui pouvait restaurer les autres. D'ailleurs, il avait fait pour Saul de Tarse. Alors, on prend Jean-Marc, leur neveu, le neveu de Barnabas, avec eux pour un premier voyage missionnaire. Jean-Marc, pour une raison qu'on ne connaît pas, les lâches, ce n'était pas une bonne raison. Il les a abandonnés. Ils avaient besoin de lui, il les a abandonnés. Alors, pour le deuxième voyage, Paul dit à Barnabas, on y va. Et Barnabas dit oui avec le neveu. Il dit non, pas avec le neveu. Mais je crois qu'il s'est repenti. Je vois en lui la semence d'un homme de Dieu. Je crois qu'il faut lui donner une deuxième. Non, 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 non. Bah, je ne peux pas. Alors, hier soir, on a entendu qu'ils avaient tous les deux tort. Et puis, ils avaient tous les deux raison. Et c'est vrai, ils avaient tort de se disputer peut-être vivement, mais la réalité reste que ces pauvres hommes, ces deux hommes, ne pouvaient pas faire un voyage missionnaire ensemble parce que la condition sine qua non pour Barnabas, c'est que Jean-Marc les accompagne et la condition indispensable pour Paul, c'est que Jean-Marc ne les accompagne pas. Alors le pauvre Jean-Marc se trouve au milieu de ces deux hommes-là. La Bible ne porte aucune condamnation sur ce problème. Parce que parfois, j'ai entendu souvent, Paul avait raison. D'autres disaient, non, Barnabas avait raison. La Bible elle-même ne se prononce pas. Ils se sont séparés. Paul allait faire un voyage missionnaire, donc c'est normal que l'Église le recommande à ce nouveau voyage missionnaire. Barnabas est parti en Chypre avec Jean-Marc, son neveu. Paul était depuis le début du premier voyage déjà le meneur de l'équipe. Il avait besoin d'un second. Ce second était Barnabas la première fois. Ce second sera Silas à partir de maintenant et pour longtemps. Paul et Silas ont fait un travail extraordinaire. Dieu les a bénis. Donc, il n'avait pas tort, Dieu le bénissait. Et Barnabas a amené Jean-Marc chez lui et l'a restauré au service du Seigneur au point que Paul, plus tard, l'appelle auprès de lui. Il dit, oui, il dit à Jean-Marc de venir vers moi, il m'est utile pour le ministère. Ah, ça c'est bien. 2 Timothée 4, 11. Et on est content de voir la dernière photo de Jean-Marc est une photo positive. On peut penser qu'aucun péché réel n'a été commis ni par l'un ni par l'autre. Sinon, peut-être, ça chauffe un peu entre eux. Mais bon. Mais ce n'était pas parce que l'un n'aimait pas l'autre. C'est parce qu'ils avaient deux convictions différentes, ce qui faisait qu'ils ne pouvaient plus travailler ensemble dans ces conditions-là. C'est ce qu'on appelle une philosophie de ministère qui est différente. Et elle n'est apparue qu'à ce moment-là. C'est une illustration pour nous, mes amis. Chaque assemblée, chaque œuvre, chaque église a son ADN. Sa confession de foi, ses positions doctrinales, sa façon de travailler, son histoire, ses réflexes. Tout est unique. Il n'y a pas deux églises qui se ressemblent. Toutes ces choses n'ont pas la même valeur. Par exemple, dans certaines églises, ils sont très attachés à ce qu'il y ait du carrelage par terre. Les femmes exigent ça parce qu'on peut passer à la serpillière, il n'y a pas de microbes et les enfants qui ont de l'asthme, ça va. Ça n'a pas la même importance que la divinité de Jésus-Christ. Mais dans cette église, si vous entrez là et vous dites, écoutez, ça ne va pas dans cette église, il faut absolument une moquette, vous risquez d'avoir des problèmes. Parce que dans leur ADN, depuis longtemps, c'est décidé, c'est du carrelage et ne rien d'autre. Ceux qui sont là sont assez attachés à ces différentes valeurs, à ces différents aspects de leur personnalité. Et les gens qui sont là sont à l'aise et enthousiastes pour ce qu'ils font. On pourrait, et je termine avec ceci, on pourrait éviter beaucoup de souffrances, on pourrait éviter beaucoup de divisions, si, et je donne 5 points, vous êtes sur le point de vous joindre à une nouvelle église, la confession de foi vous convient bien, le pasteur vous paraît sympathique, les gens sont bien, mais il faut se renseigner sur différents points. Savoir si vous êtes d'accord, pleinement d'accord, ou si vous êtes prêt à les accepter au moins. Sans vous plaindre, parce que vous vous joignez à eux, ils ne se joignent pas à vous. Si on se joint, on n'est pas obligé d'être entièrement d'accord avec tout, mais nous devons accepter la discipline et l'identité du groupe et travailler loyalement au sein de ce groupe tant qu'on croit que Dieu nous veut là. Si on y va, c'est pour être actif. C'est pour être positif. Ce n'est pas pour dire à quelques-uns, « Oui, vous savez, je me suis joint à cette église, mais franchement, tel aspect de l'église me gêne beaucoup. Je me tais. » Non, ce n'est pas vrai. Vous ne vous taisez pas, vous venez en parler. « Je me tais, mais je n'en pense pas moins. » Ce n'est pas bien, ce n'est pas loyal. « Oui, mais je trouve que ce n'est pas bien. » Oui, d'accord, mais eux, ils trouvent que c'est bien. Et si ce n'est pas un point de doctrine ou un point de foi, une conviction personnelle, ce n'est pas grave. On doit accepter la discipline du groupe, l'identité du groupe, et travailler dans son sein tant que nous croyons que Dieu nous veut là. Alors parfois, on peut leur apporter un changement, on peut leur proposer de modifier quelque chose. Mais à qui faut-il en parler ? Oh bien, ma sœur à côté de moi, elle est tellement sympathique, je vais lui parler des changements que je souhaite apportant l'Église. Erreur. Parce que la chère sœur va dire à son mari, et puis tu ne sais pas ce que la nouvelle membre m'a dit l'autre jour, hein? Elle veut tout changer dans l'Église. Vous n'avez pas dit que vous voulez tout changer dans l'Église, mais c'est ce qu'elle a compris. Oh oui, mais ça là, elle vient, elle veut tout changer dans l'Église, ça ne se fera pas, j'en parlerai au pasteur. Alors le pasteur s'amène. Qu'est-ce que j'entends? Tu veux déstabiliser l'Église? Et ah, j'ai pas dit ça. Ça va vite le tour. Si on pense pouvoir leur apporter un compliment, proposer un changement, une modification, qu'est-ce qu'il faut faire? Se taire et ruminer? Non! Allons parler avec le responsable ou les responsables. Expliquez ce qui vous tient à cœur, ce que vous pensez pouvoir apporter, le changement que vous pensez pouvoir être utile pour l'Église. Et puis, il faut se taire. Vous l'avez dit, si c'est une bonne idée, elle fera son chemin sans que vous ne la poussiez. Et un jour, peut-être les responsables dans une assemblée générale, « Oui, on a eu une idée. » Puis vous sortez votre idée et vous faites « Ouais, c'est ça. » Et c'est excellent, c'est eux qui ont eu l'idée, ils se sont appropriés, voyez. Ça arrive souvent dans les couples, vous savez, avec ma femme et moi. Oh, vous savez, je vous donne une perle de sagesse et puis je sors une phrase que ma femme a dite. Mais je le dis comme si ça venait de moi. Alors, je la comprends qu'elle soit gênée parfois. Tu aurais pu leur dire quand même que c'était moi qui avais dit ça. Oh, j'avais oublié. Et souvent, vraiment, je l'oublie tellement que je trouve l'idée bonne que je pense que c'est moi qui l'ai eue. Mais c'est à eux de porter notre suggestion au groupe. Ce n'est pas à nous de le porter, c'est eux les responsables. Maintenant, vous avez fait des propositions, vous êtes de plus en plus gênés par les choses dans l'Église. Au début, ça ne vous gênait pas, mais à l'usage, vous trouvez difficilement supportable. Et une autre église vient de s'ouvrir à côté, vous trouvez beaucoup plus en communion avec elle qu'avec celle-ci, et vous dites, je crois que le Seigneur m'appelle à partir. Comment partir? Discrètement. Discrètement. Et pourquoi? Souvenez-vous, c'est eux qui vous ont accueilli. C'était eux ou rien à l'époque. C'est eux qui vous ont accueilli. Et quand nous partons, on n'a pas à critiquer ni leur motivation, ni la sincérité des gens qui nous ont accueillis. Nous, on est passé par des moments difficiles au sein de différentes églises, mon épouse et moi, mais une chose qui nous a, je crois, vraiment aidé, nous et nos enfants, on est toujours parti du principe, je crois que Dieu nous a fait grâce de comprendre ça, on est toujours parti du principe que les gens étaient sincères. Je ne sais pas s'ils étaient sincères, mais j'ai choisi de croire qu'ils étaient sincères. Parce que l'alternative de ça, c'est de croire qu'ils ont mal intentionné, alors que peut-être qu'ils étaient sincères. Et il vaut mieux se tromper 100 fois en disant qu'ils étaient sincères, qu'ils étaient mal intentionnés parce que Dieu le voit, plutôt que de nous de dire qu'ils sont mal intentionnés alors qu'ils étaient sincères, parce que là aussi Dieu le voit. Ils m'ont accueilli. Ils ne veulent pas de mes changements. Je supporte difficilement de continuer dans cette église. Je pense que Dieu m'appelle ailleurs, mais je veux garder de bons souvenirs de leur accueil, des bons moments passés ensemble, et je vais leur faire le moins de mal possible. Je ne les critiquerai pas au dehors. Je remercie Dieu pour le privilège de les avoir connus et d'avoir pu faire un bout de chemin avec eux. Je dis, bon, ça c'est très bien tout ça, mais où est le fondement biblique pour ça? Mais il y a plein de fondements bibliques, mais c'est dans la compréhension du fonctionnement d'un troupeau et du berger. Si vous voulez aider un berger avec ses troupeaux, il faut parler beaucoup avec le berger. Il ne faut pas aller essayer de donner vos ordres aux brebis. Ça va les distraire, ils vont entendre une autre voix, ils ne vont pas savoir où aller. Ça doit passer par le berger, par les responsables. Ça passe par le berger qui a la responsabilité devant Dieu des brebis et du troupeau. Déstabiliser, attaquer le berger a des conséquences dramatiques sur les brebis. On dit, moi je vais me faire le berger, il va voir. Oui, d'accord, vous allez faire tomber, mais 100 brebis vont être dans la nature aussi. Ce sont les brebis du Seigneur. Et le Seigneur, les brebis, leur a demandé de rester unis. Que Dieu nous donne sagesse, patience, honnêteté et amour pour promouvoir l'unité en notre sein et autour de nous. Nous terminons en lisant 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 9 à 15. En Thessaloniciens, chapitre 5, versets 9 à verset 15. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Notre Seigneur prend ses paroles, imprime-les dans nos cœurs, dans nos consciences et dans nos mémoires. pour la gloire du Christ. Amen.